Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi, comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, hein, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, intitulée « Dernières nouvelles du front, du Rojava et de Syrie ». Et pour parler de ces dernières nouvelles du front de Rojava et de Syrie, nous sommes avec Vivian Petit, co-auteur sur ce sujet de plusieurs articles, et avec qui nous avons déjà réalisé plusieurs émissions sur ce sujet. Donc bonjour Vivian.
Bonjour, merci de me réinviter pour cette émission sur l'actualité du coup de la Syrie. Il y a différents articles, différentes recherches qui sont sorties, du coup on a décidé de pouvoir en reparler, de refaire un point notamment sur l'actualité.
Pour ce qui est des derniers travaux de recherche, donc je vais m'appuyer sur le livre qui vient de sortir de Joseph Daher aux éditions Plutôt Presse qui s'appelle « Syria After the Uprisings ». The Political Economy of State Resilience, disons, qui apporte à ce qu'on a déjà dit un focus un peu plus important sur les intérêts des puissances régionales, notamment comment est-ce qu'elles ont manipulé l'armée syrienne libre et qu'elles ont finalement nui à l'insurrection syrienne populaire de 2011. Et puis, c'est aussi un ouvrage intéressant par rapport à l'économie politique du régime. Comment est-ce qu'à partir de 2011, il a tenté de mobiliser sa base populaire, quelle base sociale il défendait, quelles concessions il a dû faire tout au long du conflit à différentes forces qui l'ont aidé, à la fois des forces internes et puis aussi, évidemment, à l'Iran et à la Russie. Et puis, je vais également m'appuyer sur les travaux très récents de Patrick Haini et Arthur Kenney, qui reviennent tout juste du Rojava. Donc, je m'appuierai sur eux pour un bilan de l'offensive turque. Et puis, je m'appuierai également sur les travaux de Sina Hataet sur l'économie politique du PYD, donc qui sont des travaux qui sont assez difficilement accessibles et qui offrent une perspective nouvelle un petit peu sur le PYD et sa gestion interne et les transformations sociales, économiques et politiques qu'on dit qui se sont passées là-bas. Et puis toi Vivian, du coup, tu vas plutôt parler de différents rapports, de différentes actualités très récentes en Syrie.
Oui, oui, oui. À la fois dans les zones reprises par la Turquie récemment, notamment sur les violations des droits humains, etc. Aussi les quelques sondages qu'il y a eu auprès de la population dans ces zones-là, dans les gouvernorats de Raqqa et d'Asakeh notamment. Et enfin, j'aimerais bien évidemment continuer à parler de la répression menée par le régime dans les zones qui ont été reconquises ces dernières années.
Voilà, alors du coup, pour commencer, je vais commencer avec plutôt les apports donc du livre de Joseph Daher. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est que Joseph Daher montre assez bien que le régime, depuis 2011 et avant, avait un certain nombre de principes organisateurs et aussi de stratégies qui vont lui permettre de résister à la vague révolutionnaire de 2011-2012, puisque en 2012, il y a quand même une grande partie du territoire syrien qui est perdue par le régime, au profit de l'insurrection armée, qui à cette époque est principalement démocratique, laïque, multiconfessionnelle, etc., etc., et pas encore tout à fait militarisée, même si ça commence du fait de la répression du régime. Et puis, comment est-ce que ce régime va même finir va se retrouver de plus en plus en capacité de reprendre du terrain, jusqu'à aujourd'hui où quasiment la totalité de la Syrie en dehors de Idlib et de sa région et du Rojava d'autre part, il a repris l'essentiel du territoire syrien à l'heure actuelle. Alors ce que dit Joseph Daher sur le sujet, c'est que tout d'abord, le régime, même s'il a énormément joué sur la confessionnalisation du conflit, a réussi quand même à faire en sorte que, tout en dépeignant l'opposition comme étant simplement un mouvement djihadiste, sunnite, etc., etc., et donc à se rallier les minorités qui avaient peur donc, d'un scénario à l'irakienne, avec la montée plutôt d'Al-Qaïda à partir de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Donc, d'une part, évidemment, Assad a réussi à s'attirer les faveurs des minorités, notamment en leur faisant un certain nombre de concessions, en réprimant moins les manifestations dans les zones habitées exclusivement par des minorités. Mais aussi, le régime a quand même réussi à faire en sorte qu'une partie de la population sunnite ne se soulève pas. Et pour ça, il a joué sur un double standard, c'est-à-dire que dans les zones relativement mixtes où il y avait un soulèvement, il a réprimé extrêmement brutalement les manifestations à majorité sunnite pour que les minorités comprennent que leur intérêt est de rester du côté du régime. Et par contre, il y a des zones exclusivement sunnites qui ne se sont pas soulevées. Et là, le régime ne les a pas réprimés, donc ça a permis au régime d'éviter non plus de tomber dans un conflit complètement confessionnalisé. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'à la fois le régime est très confessionnalisé dans le sens où il est avant tout le défenseur des minorités et la garde prétorienne, l'entourage de Bachar Assad, etc., est en écrasante majorité alaouite, mais en même temps, il a réussi à passer aux yeux au moins d'une partie de la bourgeoisie sunnite et de certaines zones aussi rurales acquises aux parties basses de longue date, il a réussi à se faire passer aux yeux de ces populations, enfin de ces groupes sociaux-là, pas comme un défenseur uniquement des alaouites, mais plutôt comme un défenseur du statu quo. Et c'est ce qui lui a permis de garder quand même certains soutiens dans la bourgeoisie sunnite, dans la classe moyenne sunnite, notamment, c'est très visible par exemple à Alep et à Damas. À Alep, une partie de la ville est restée loyale au régime tout au long du soulèvement, même si elle n'était pas peuplée, loin de là, que de minorités. Et même certaines zones rurales ne se sont pas soulevées contre le régime. Après, le deuxième aspect que met en avant Daher, c'est le fait que le régime est quand même assez affaibli en 2011 dans ses capacités de mobilisation. C'est-à-dire que le parti basse n'est plus qu'une coquille vide, incapable d'une quelconque mobilisation de la population depuis longtemps et encore plus sous Assad. L'armée est en complète décrépitude. Mais pourtant, le régime va réussir d'une part à limiter les défections d'officiers et de soldats par tout un jeu de surveillance, etc., etc. Et aussi un jeu très intelligent, c'est que globalement, jusqu'à une période relativement récente, le gros de la répression a été effectué par un nombre assez limité d'unités qui sont majoritairement composées d'alaouites. Parce que le régime a préféré que les troupes à majorité sunnite restent à s'occuper du maintien de l'ordre, mais pas à s'occuper directement de la répression, de peur que ces troupes basculent massivement dans l'opposition. Et globalement, effectivement, le régime a réussi par là à limiter l'hémorragie de soldats et d'officiers passés du côté de l'opposition. D'ailleurs, il n'y a jamais eu, par exemple, d'unité militaire entière avec équipement, officiers, etc., qui est passé du côté de l'opposition. Ça a toujours été des défections individuelles ou inter-individuelles, mais en tout cas, jamais quelque chose d'extrêmement dangereux pour le régime. Ensuite, le régime a également utilisé ses connexions avec les capitalistes de connivence, comme on les appelle en anglais, les crony capitalistes. Et il a fait appel donc à ces businessmen qui tirent leur fortune voilà, de leur proximité avec, avec le régime d'Assad. Donc c'est eux qui ont organisé des manifestations pro-régime, ce qui a permis au régime de se donner une meilleure image internationale. C'est eux qui ont également commencé à constituer des milices qui vont jouer un rôle très important à la fois dans le pourrissement de la situation dans les zones voilà, mixtes alaouites sunnites et aussi qui vont jouer un rôle extrêmement voilà, contre-révolutionnaire dès 2011. Et puis, ils vont également, enfin, atténuer un petit peu le fardeau de certaines populations en organisant des mesures de charité pour suppléer à des services publics complètement défaillants. Donc voilà, le régime a réussi donc à s'appuyer sur ses businessmen pour mobiliser une partie de sa base populaire et en même temps transformer une partie de cette base populaire en force répressive. Ensuite, le régime a enfin fait appel à la Russie, l'Iran et le Hezbollah pour le soutenir. Pour cela, il leur a concédé des avantages économiques énormes. Donc il faut savoir qu'il y a une grande partie des richesses naturelles qui sont progressivement en train de passer aux mains de compagnies russes ou de compagnies iraniennes. Donc évidemment, cette aide russe et iranienne militaire ne s'est pas faite voilà, sans contrepartie, une aide financière évidemment. Donc le régime de Bachar al-Assad a réussi aussi à s'assurer un soutien voilà, financier et militaire très important qui lui a permis de l'emporter, même si ça a eu des conséquences importantes puisque l'Iran et la Russie sont aujourd'hui dans des positions économiques extrêmement favorables dans les zones contrôlées par le régime. Ils vont également aussi bénéficier de toute l'économie de la reconstruction, etc., etc. Donc, au final, on peut dire que le régime a plutôt bien a mis en place un certain nombre de mesures qui lui ont permis que le soulèvement ne soit pas généralisé, que tous les sunnites ne se mobilisent pas contre lui, et également de mobiliser ses partisans voilà, par différentes manières, de limiter l'hémorragie de soldats, etc. etc. Mais en même temps, ça a eu un certain coût, puisque le régime étant gravement endetté à l'heure actuelle, le PIB de la Syrie ayant été divisé par 5 depuis 2011, hein, c'est quand même assez énorme, et bien évidemment, même la base populaire du régime commence à se rebeller contre le régime, dans le sens où, évidemment, il y a eu un durcissement des politiques néolibérales et d'austérité pendant la guerre, d'une part. Deuxièmement, les projets de reconstruction mécontentent énormément même la population favorable au régime, dans le sens où voilà, c'est des projets faramineux, luxueux, qui ne bénéficient pas du tout, même à la base populaire du régime, et qui donc indignent la population pro-régime. Et puis troisièmement, eh bien, les milices qui étaient censées uniquement lutter contre l'opposition, en fait, ont également des effets extrêmement négatifs sur les zones pro-régime, puisqu'il y a des pillages, des vols, des viols, des assassinats, etc. Et les milices sont plus ou moins incontrôlables par le régime. Donc, voilà, le régime, aujourd'hui, fait face quand même à un mécontentement croissant de sa base populaire, avec même des manifestations, énormément de messages hostiles, non pas au régime en tant que tel, mais disons à ses politiques sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, le régime, enfin, est face à des contradictions, c'est-à-dire qu'il doit ménager à la fois les capitalistes de connivence avec lesquels il est proche, il doit ménager les intérêts de l'Iran, il doit ménager les intérêts de la Russie, et donc, en fait, il y a des mécontentements, y compris du côté des proches du régime de Bachar el-Assad, et des divergences, ce qui fait qu'il y a une certaine rumeur qui dirait qu'apparemment, il y aurait une bisbille assez importante entre le régime et Rami Makhlouf, donc qui contrôlait par l'intermédiaire de ses sociétés 60% de l'économie syrienne en 2011, voilà, et un différend qui porterait sur le fait que, en fait, ces businessmen ont atteint des positions de pouvoir politique économique et social tellement important pendant le soulèvement qu'ils n'ont pas envie de le rendre à l'État. Et donc, évidemment, ça crée des frictions assez importantes. Donc, voilà, le régime sort victorieux de cette contre-révolution, enfin quasiment victorieux, hein, mais voilà, ça n'a pas été voilà, sans aucun coup et sans aucune limite. Et on pourrait voilà, finir ce point en disant que dans la mesure où les politiques néolibérales et les conditions socio-économiques extrêmement mauvaises en Syrie en 2011, dans la mesure où elles constituent la raison d'une partie du mécontentement, outre la corruption du régime, le fait que voilà, il est perçu comme étant uniquement, enfin comme étant principalement au service d'une minorité de capitalistes proches de lui, eh bien ces deux facteurs se sont aggravés, c'est-à-dire que les politiques néolibérales sont encore plus dures, les conditions socio-économiques sont encore plus dégradées, et le régime apparaît comme encore plus au service d'une petite minorité de capitalistes de connivence. Donc, on peut légitimement penser que le régime voilà, ne sort pas indemne de cette contre-révolution, même si elle est victorieuse.
En fait, le régime a été très affaibli à tout point de vue et l'est de plus en plus. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est quand même maintenant les endroits où le régime combat encore. Par exemple, dans les endroits où il combat contre les milices alliées à la Turquie, aux côtés des YPG, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas l'armée régulière du régime, quoi. C'est uniquement des milices qui souvent sont pas très convaincus. Les soldats de ces milices-là sont souvent décrits comme assez peureux ou battant en retraite assez rapidement parce qu'ils sont pas très convaincus eux-mêmes. Et par ailleurs, le régime, militairement, il est extrêmement dépendant de la Russie, de l'Iran et des alliés de l'Iran, comme par exemple le Hezbollah. Et à la fois, ça fait en sorte que le régime est quand même très faible politiquement. On voit qu'il n'y a pas de décision sur l'avenir de la Syrie qui peut se prendre sans l'accord de la Russie, notamment. Ça s'est vu récemment dans les négociations entre la Russie et la Turquie à propos du nord de la Syrie. Et des négociations qui ont abouti à la mise en place de patrouilles conjointes des armées russes et turques du coup contre le YPG, et une décision qui a quand même beaucoup déplu au régime qui défend son intégrité territoriale, etc. Et une décision qui a pourtant été prise par la Russie qui est officiellement son principal allié, quoi. Ce qui dit quand même beaucoup de la faiblesse de ce régime-là. C'est aussi une faiblesse économique. Tu me dis, le PIB, il a été divisé par 5. La monnaie, elle vaut plus rien. Maintenant, c'est quasiment... on n'est pas à près de 1000 livres syriennes pour $1. Ce qui, enfin, voilà, c'est ce qui dit quand même beaucoup de la faiblesse économique et politique de ce qui reste du régime syrien, même si, de fait, il y a une sorte de victoire militaire à la Pyrrhus. Et enfin, il y a aussi un contexte régional qui fait que le régime il est de plus en plus faible, en fait. Quand, enfin, il y a quand même de nouveau des soulèvements dans le Moyen-Orient, de l'Iran au Liban, en fait. Et en fait, c'est quelque chose qui affaiblit le régime pour deux raisons. La première, c'est que c'est des manifestations qui cible le régime iranien. Donc déjà, il y a eu un soulèvement en Iran qui a été très durement réprimé, mais qui quand même peut-être affaiblit le régime iranien et redonne confiance à la population pour des luttes futures. Et au Liban et en Irak, c'est aussi l'ingérence iranienne et les régimes alliés à l'Iran qui sont dénoncés. Un régime comme le régime syrien qui est assez dépendant du soutien iranien a peut-être de soucis à se faire si jamais il y avait soit un changement de régime en Iran, soit un recul des positions iraniennes au Moyen-Orient. Une autre chose à dire, c'est que dans la vague de contestation au Moyen-Orient qui a repris ces dernières semaines, il y a eu aussi des manifestations importantes en Syrie. D'abord dans les zones tenues par le PYD suite au retour relatif de l'armée du régime, on y reviendra, mais du coup suite à l'offensive turque dans le nord de la Syrie, le PYD à demander au régime de remettre ses troupes. Ça n'a pas été totalement une reprise en main de ces territoires-là par l'armée du régime, mais c'est quand même une présence militaire du régime et le régime cache pas du tout sa volonté de reprendre beaucoup plus totalement ces endroits-là. Et par conséquent, les populations sur place, qui savent très bien ce que voudrait dire pour elles un retour du régime, et notamment pour les personnes connues pour s'être opposées à Assad, qui sont en danger de mort, ces populations-là ont manifesté. Ces manifestations qui ont été réprimées, notamment à Raqqa ou autour de Deir ez-Zor par l'YPG. Il y a eu une grève générale à Manbij fin octobre, qui a elle aussi été réprimée, avec notamment l'arrestation par l'YPG des leaders supposés de la grève et la mise en scène vidéo des aveux forcés de ces personnes-là, qui avouent, un peu comme au temps du stalinisme, face caméra, qu'elles ont été payées par l'étranger pour déstabiliser le YPG alors que le peuple soutient les FDS. Et en fait, ces manifestations-là sont quand même des manifestations qui du coup, sont assez massives et sont clairement contre le régime. Et il y a eu aussi des manifestations dans, ce qui est peut-être plus étonnant, dans les zones qui avaient été reprises par le régime ces dernières années, quoi. Et il y a eu, du coup là on enregistre le 6 décembre, ces derniers jours il y a eu des manifestations de nuit dans pas mal de villes du sud de la Syrie, des personnes cagoulées qui déroulent des banderoles, etc., contre la dictature. Et aussi avec des revendications sociales. Et il y a eu une énorme manif, du coup, à Deraa, la semaine dernière, le vendredi 29 novembre. C'était vraiment une manifestation de masse, ouverte, en plein jour. Deraa, c'est un des berceaux de la révolution syrienne, qui a été reprise par le régime d'Assad. Et en fait, il y a eu deux ex-rebelles syriens qui avaient été réintégrés par le régime dans ce qui est appelé les supposés accords de réconciliation, même s'ils sont très rarement respectés et qu'il continue très souvent à y avoir des. Malgré le fait que le régime proclame sa volonté de se réconcilier, etc., il continue à y avoir des arrestations, des assassinats, des morts sous la torture, etc. Et donc, deux ex-rebelles syriens, réintégrés par le régime, ont finalement été assassinés, parce que leur ralliement paraissait douteux, quoi. Et au moment de leur enterrement, le lendemain, c'est des milliers de Syriens qui ont surgi au grand jour, encadrés par des groupes armés. Et les slogans, c'était le peuple veut la chute du régime, du coup. Qui était déjà un slogan partout dans le monde arabe en 2011, et comme en Irak, l'Iran dehors. Ce qui, justement, revient à ce que je disais sur l'impact en Syrie des manifestations dans tout le Moyen-Orient, quoi.
Ouais, on peut dire effectivement que la légitimité du régime, qui était déjà faible en 2011, eh ben effectivement, elle est encore pire, voilà, à l'heure actuelle. Et à la fois dans les régions qu'elle a reconquises, mais aussi d'ailleurs même auprès de sa propre base populaire, puisque au début, une des forces du régime avait été d'offrir un certain nombre d'avantages matériels aux fonctionnaires, aux familles des martyrs, entre guillemets, aux miliciens, etc., etc. Et puis la situation financière de l'État syrien s'empirant, un certain nombre de ces avantages avaient été retirés et ça avait évidemment accru le mécontentement dans ses rangs. Et puis une des autres faiblesses, évidemment, du régime de Bachar el-Assad, c'est le fait que, contrairement à peu près tous les États qui le soutiennent ou dont les relations sont en voie de normalisation avec lui, c'est-à-dire en fait à peu près à part l'Iran, même la Russie veut une solution politique au conflit avec des négociations, etc., etc., histoire que c'est une légitimité voilà, diplomatique, alors que le régime de Bachar el-Assad ne semble pas du tout prêt à ce genre d'exercice, ce qui lui avait déjà aliéné un certain nombre de régimes en 2011. Et ça me permet, et voilà, ce qui lui avait déjà aliéné un certain nombre de régimes en 2011, comme par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore la Turquie. Il faut savoir que ces trois pays qu'on a présenté pendant un certain nombre d'années comme les principaux voilà, financeurs et fournisseurs d'armes à l'opposition syrienne, en réalité avait plutôt des très bonnes relations avec le régime de Bachar al-Assad en 2010-2011, des relations qui s'étaient améliorées au fur et à mesure des années 2000, et que pendant plusieurs mois, alors même que le régime réprimait violemment la population syrienne, ces puissances régionales ont simplement demandé à Bachar al-Assad d'intégrer quelques membres de son opposition officielle, plutôt voilà, des frères musulmans, etc., etc., et de faire voilà, quelques réformes cosmétiques qui n'auraient rien changé au fond du problème politique, économique et social que rencontraient voilà, les gens qui se sont soulevés en 2011. Et Bachar al-Assad refusant voilà, toute forme de réforme, ne serait-ce que cosmétique, eh bien, alors, on pense que ce serait lié au fait que Bachar al-Assad avait peur que, en essayant de faire des gestes d'ouverture et de réforme, il serait condamné à la chute, comme Ben Ali et Moubarak, et pensait qu'au contraire, la seule manière de se maintenir, c'était de ne pas discuter avec l'opposition et de réprimer à tout bout de champ les manifestants, ce qu'il a fait depuis le début. Mais donc, c'est seulement dans un deuxième temps que ces différents États, qui ensuite se sont appelés les amis de la Syrie, ont commencé à se retourner contre le régime de Bachar al-Assad, non pas en soutien à l'insurrection, mais plutôt pour essayer d'installer à la place de Bachar al-Assad un régime qui serait plus favorable à leurs intérêts. Et une grande partie de l'opposition en exil et de ses organes soi-disant représentatifs, comme le Conseil national syrien, la coalition, etc., n'ont été, de l'avis en tout cas de Joseph Daher, que des instruments de ces puissances régionales pour faire avancer leur propre agenda, qui en gros, on change voilà, de personnage à la tête de l'État, mais on ne touche pas à l'appareil répressif, au capitalisme néolibéral de connivence, etc., etc. Il s'agissait en réalité simplement de mettre fin à un régime pro-Iran. C'est-à-dire en fait ce qui a vraiment été le moteur du basculement de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et du Qatar contre Bachar al-Assad, mais pas aux côtés de l'insurrection, je dis bien contre Bachar al-Assad, ça a été voilà, le fait qu'il s'est trop rapproché de l'Iran et que donc, dans ce sens-là, il apparaissait voilà, comme un obstacle à l'affaiblissement de la puissance iranienne. Et donc, puisque le but n'était pas le triomphe de l'insurrection syrienne, mais bien simplement un changement de politique voilà, de l'État syrien en matière de politique internationale, eh bien, ces différents États, loin de financer l'armée syrienne libre, d'aider matériellement et financièrement l'insurrection de manière désintéressée, comme parfois on a pu le croire, en réalité ont financé des forces qui soit satisfaisaient directement leurs objectifs géopolitiques, soit qui, du fait de leur dépendance financière vis-à-vis de la Turquie, de l'Arabie du Qatar, ont fini par devenir simplement des auxiliaires de ces puissances étrangères. Et le cas le plus spectaculaire, hein, évidemment, dont on a beaucoup parlé, ce sont tous les débris de l'armée syrienne libre qui ont fini comme des mercenaires au service de l'État turc. Mais il y a un peu le même cas pour le Qatar. Là, c'est plutôt du côté des islamistes radicaux. Et il y a aussi le cas de l'Arabie Saoudite. C'est le cas d'autres acteurs. Donc finalement, ces soi-disant amis de la Syrie, ce qu'ils ont fait... Enfin, le résultat, entre guillemets, de leur action, ça a été de diviser l'opposition, confessionnellement, militairement, en termes d'objectifs. Division qui a fini aussi par attiser des conflits entre différentes formes, les différentes forces d'opposition, qui a favorisé la montée en puissance des groupes islamistes radicaux au détriment de l'opposition laïque et de l'armée syrienne libre. Le passage d'une partie de l'armée syrienne libre du côté de groupes islamistes radicaux, etc., etc. Et finalement, ce que dit Daher, c'est que c'est pas étonnant que à la fois ces puissances ont desservi le soulèvement syrien et l'opposition à Bachar al-Assad par en menant chacun de leur côté voilà leur petite guéguerre voilà pour leurs intérêts géostratégiques, mais d'autre part donc c'est pas étonnant que ces régimes depuis 2018 eh bien se rapprochent du régime puisqu'ils ont compris que de toute façon ils réussiraient pas à renverser ce régime, donc ils sont en train de normaliser progressivement leur relation donc avec ce régime et donc il y a eu un certain nombre voilà de diplomates par-ci de part et d'autre qui sont venus se rendre visite, et donc la parenthèse des soi-disant amis de la Syrie est terminée et on voit bien évidemment avec l'offensive turque, puisque c'est quand même un des objets centraux de notre émission, que finalement évidemment la Turquie elle non plus ne cherche pas renverser Bachar al-Assad, mais plutôt elle cherche à assurer ses objectifs géopolitiques, y compris peut-être dans le futur en faisant une alliance avec le régime pour écraser de manière définitive le PYD.
Oui, justement, à la limite, on peut, sur ce sujet-là, sur la manière dont une partie l'opposition à Assad a été inféodée à la Turquie, je pense qu'il y a différentes choses à dire, mais ce qui a été assez révélateur, c'est, je pense, la manière dont beaucoup de médias récemment ont décrit les mercenaires, ou ceux qu'on appelle les supplétifs de la Turquie, qui du coup ont participé à l'invasion du Rojava, en les décrivant souvent comme des djihadistes, ou alors en relayant soit des rumeurs, soit des discours assez exagérés, les décrivant très majoritairement comme des membres d'Al-Qaïda ou d'anciens membres de Daesh. Et en fait, c'est surtout une rumeur qui vient du fait que beaucoup de groupes de l'ASL ont servi à exfiltrer des déserteurs de Daesh, qui pour certains se sont mis à combattre pour l'ASL. Mais l'histoire en fait de ces groupes-là, ça a été notamment le fait d'avoir été défait pour certains face à Daesh assez tôt, notamment du côté de Derazor, soit pour un certain nombre d'avoir en fait eu leur sort négocié par les différentes puissances, et notamment au cours des différents cessez-le-feu, lors des reprises notamment d'Alep, de la Ghouta, un certain nombre de combattants en fait ont été exfiltrés par la Turquie, et pour accepter cet accord de cessez-le-feu en fait la Turquie les a payés, leur a fourni des armes, etc. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que des groupes de l'armée syrienne libre sont devenus des groupes qui ont été complètement inféodés à la Turquie, qui n'ont plus d'agenda propre et qui n'ont plus combattu le régime, et qui se retrouvent maintenant à uniquement combattre le YPG dans les zones du nord de la Syrie, qui jusqu'à aujourd'hui avaient été plutôt épargnées par la guerre. Et en fait, je pense que ça s'explique moins par des questions idéologiques ou par le fait d'expliquer que tel groupe serait plus islamiste que tel autre groupe de l'ASL, mais ça s'explique beaucoup plus par une forme de mercenariat, quoi. Et dire ça, en fait, décrire des groupes comme des mercenaires plus que comme des djihadistes, c'est pas du tout plus les défendre ou je sais pas quoi, c'est surtout une manière d'essayer de comprendre une logique géopolitique un peu froide. Et à ce sujet, on peut par exemple lire un entretien assez édifiant, en fait, avec un combattant d'Ara al-Sharqiya, qui est une des milices de l'armée nationale syrienne, une des milices notamment accusée de crimes de guerre par les différents rapports à propos de ce qui se passe en ce moment dans le nord de la Syrie, on y reviendra. Du coup, c'est un entretien qui a été publié sur le site Solitude Intangible, et du coup, c'était le 19 novembre, la date de publication, et ça s'appelle « De la révolte contre Assad à la lutte contre le PKK sous commandement turc ». En fait, c'est un combattant du coup syrien qui vient du côté de Deir ez-Zor, qui a combattu contre le régime, qui a combattu contre Daesh, puis avec son groupe qui est passé de l'est de la Syrie à l'ouest, et qui rapidement, au fur et à mesure des défaites, a vu sa milice placée directement sous patronage turc, qui est maintenant dans un combat qui a quand même beaucoup moins de sens que celui contre le régime ou contre Daesh. Quoi. Et cet entretien, je pense, montre assez bien l'histoire de cette brigade. Et pour ce qui est des puissances alliées au régime, notamment la Russie, on peut remarquer en ce moment qu'elle défend un agenda assez précis quand on voit les négociations qui se sont ouvertes le 30 octobre en Suisse, en fait, c'est un comité qui vient d'être créé en Suisse, c'est pas le comité constitutionnel syrien. En fait, il est chargé de préparer une nouvelle négociation à Genève, dans le cadre de négociations entre le régime et une partie de l'opposition, quoi. Ça, c'est quelque chose qui a été lancé par la Russie et qui s'oppose au processus d'Astana. Et le processus d'Astana, il avait créé quatre zones de cessez-le-feu en 2017, quoi. À Damas, du coup, à la Ghouta orientale, à Deraa, à Rastan, à Idlib. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'était des promesses en l'air sur la question du cessez-le-feu, parce que dans les zones que je viens de citer, en fait, trois des quatre, c'est-à-dire la Ghouta, Deraa et Rastan, ont été reprises par le régime en 2018, quoi. Et là, qu'on assiste à une négociation entre une partie de l'opposition officielle en exil et le régime qui négocie directement pour, genre, écrire une nouvelle constitution et mettre en place une supposée réconciliation. Et cette négociation-là a dit rien de l'avenir des territoires qui ne sont pas contrôlés par le régime, alors qu'en fait, ça dépendra probablement moins de ces négociations-là et même moins de l'attitude du régime que des négociations entre différents États, et notamment entre la Russie et la Turquie. Et cette opposition-là négocie avec un régime qui ne cache pas une volonté de réunifier la Syrie, et on sait comment en fait le régime se comporte. Quand il reprend des zones, malgré les supposés accords de réconciliation ou je ne sais pas quoi, il y a en ce moment un accroissement du nombre de morts à la prison de Sendaya, qui est un centre de torture à 30 km au nord de Damas. Et les accords de réconciliation, ils ne sont jamais respectés. Je parlais tout à l'heure des deux ex-rebelles de Deraa qui ont été assassinés, malgré leur supposée réconciliation avec le régime et leur réintégration dans l'armée syrienne. Il y a régulièrement des arrestations. Des assassinats, des médecins notamment qui avaient soigné beaucoup de blessés liés aux actions du régime dans les hôpitaux en zone libérée ont été assassinés ces derniers mois. Et parfois, il y a des manières détournées en fait d'exécuter les ex-rebelles quand ils sont réintégrés dans l'armée syrienne. Souvent, c'est les envoyer en première ligne, quoi. Et Leyla Hashami a disait notamment que une des craintes du YPG, et ce qui est probablement la raison principale pour que les FDS et l'YPG refusent d'intégrer l'armée syrienne, c'est qu'il leur arrive la même chose, quoi, de voir en façade une supposée soit réconciliation, soit alliance, mais que dans les faits, ce soit une forme d'exécution et d'affaiblissement et une manière de contourner en fait tous les traités internationaux sur la torture, sur les exécutions sommaires, etc., ce qui a difficilement possibilité de prouver, au regard du droit international, que telle ou telle personne a été sciemment envoyée en première ligne pour la faire mourir, quoi. Et du coup, là, on voit en ce moment quand même une volonté du régime de reprendre tout le territoire. C'est du moins ce qu'il proclame, même s'il y a évidemment probablement une conscience de la part d'Assad du fait que ça ne dépendra pas qu'à lui. Et le régime est assez faible et ça se négociera évidemment entre les différents États. Et j'espère que ça dépendra aussi des mouvements populaires. J'ai parlé des manifestations qu'on reprise dans les zones du régime ou dans les zones tenues par le PYD. Et il y a eu aussi des grosses manifs dans ce qui reste des zones de l'opposition, notamment autour d'Idlib. C'est des manifestations qu'on reprise en même temps que les manifestations au Liban et en Irak. C'est des manifestations du coup en soutien aux autres révoltes contre l'Iran qui est allié à Assad et aussi contre Ayad Tahrir al-Sham qui est le principal groupe djihadiste Idlib, qui administre une partie de la région d'Idlib et qui a récemment notamment à la fois persécuté des activistes de la société civile et aussi augmenté les taxes, le prix de l'électricité.
Oui, bah, je pense que c'est une bonne manière de conclure cette première partie de l'émission, puisque voilà, tu as abordé déjà un petit peu voilà, la question de la possible reconquête par le régime de la totalité du territoire dont on va parler dans la seconde partie, et notamment on va parler également dans la seconde partie du bilan de l'offensive turque qu'on a déjà un petit peu évoqué, mais un petit peu pour faire un état des forces. Et puis on finira par une économie politique aussi du PYD, puisque on a beaucoup parlé dans l'émission sur l'agression turque au Rojava des aspects plus géopolitiques du PYD. Mais on pensait que c'était quand même important de faire un peu un bilan aussi de ce qu'a fait le PYD, qui est un acteur qui risque de disparaître de la scène syrienne au cours des prochains mois s'il est effectivement attaqué à la fois par la Turquie et par le régime.
حري وبس